Le journal par Adrien Toffolet. Bonjour Adrien.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. L'aide humanitaire du navire Open Arms est enfin arrivée à Gaza. 300 000 repas distribués à une population affamée de 2 400 000 Gazaouis. Pas de quoi rassurer l'ONU qui craint encore une famine généralisée et demande à Israël l'ouverture d'autres postes d'entrée d'aide humanitaire sur la frontière terrestre. Une nouvelle route vers le nord de l'enclave vient justement d'être testée cette semaine.
L'actualité internationale, c'est aussi la présidentielle russe avec une deuxième journée de vote ce samedi.
Un scrutin sans enjeu avec un Vladimir Poutine assuré de gagner. Comment ce scrutin est-il perçu par les Russes qui ont fui à l'étranger après l'invasion de l'Ukraine et qui vont voter à distance ou non ? Reportage en Turquie à suivre.
En France, nous reviendrons sur la vente d'Altis Média, maison mère de BFM et RMC, au milliardaire Rodolphe Saadé.
Un nouvel empire médiatique se construit et un relais d'influence qui s'oppose directement à l'empire Bolloré, vous l'entendrez. Et puis Montbéliard, capitale française de la culture 2024. Gabriel Attal est attendu là-bas aujourd'hui pour lancer les festivités autour de ce label qui a un véritable impact sur les villes et les territoires concernés. L'ONU ne cesse de lancer l'alerte. La famine généralisée menace les populations à Gaza et la question du passage de l'aide humanitaire dans l'enclave est centrale. Sur la frontière terrestre, les camions ne passent qu'au compte-gouttes, pas assez vite, pas assez nombreux pour nourrir les près de 2,5 millions de Gazaouis. Désormais, le corridor maritime est aussi une possibilité puisqu'un premier bateau parti de Chypre mardi est arrivé sur les côtes hier après-midi. À son bord, 200 tonnes de denrées alimentaires. À Jérusalem, les précisions d'Alice Froussard.
C'est la première fois qu'un navire de cette taille approche la bande de Gaza depuis 2007, date de la mise en place du blocus maritime par Israël. Depuis hier, l'aide apportée par le bateau Open Arms a commencé à être déchargée dans le nord de Gaza. L'organisation travaille avec une autre association, World Central Kitchen, qui construit une jetée. 37 millions de repas vont être distribués et un second bateau est déjà prévu. Un soutien précieux, mais de nombreuses ONG de la société civile palestinienne et des organisations humanitaires internationales reste sceptique. Pourquoi ces navires, disent-elles, alors que des milliers de camions sont encore bloqués à la frontière égyptienne et que les États-Unis pourraient tout simplement forcer Israël à ouvrir Rafah ? Surtout, les détails de la distribution restent peu clairs. Beaucoup craignent les mêmes scènes de chaos et de panique qu'avec le largage de l'aide humanitaire.
Côté israélien, si l'ouverture de Rafah n'est pas à l'ordre du jour, les autorités cette semaine ont toutefois testé avec succès une nouvelle route avec des camions de l'ONU. Objectif, simplifier l'accès au nord de l'enclave, car c'est le secteur le plus menacé par la famine, Étienne Monin.
Pour entrer directement dans le nord de la bande de Gaza depuis Israël, les 6 camions de l'ONU chargés de farine et de nourriture ont emprunté une nouvelle route tracée par les militaires israéliens depuis la barrière de sécurité jusqu'à la mer. Andrea De Dominico est le chef de la coordination humanitaire de l'ONU à Jérusalem, joint par WhatsApp.
Après une négociation avec l'armée israélienne, ceci nous a permis d'avoir un convoi qui a rapidement pu aller au nord. C'est quand même un endroit où il n'y a pas de personne, il n'y a pas de foule qui bloque les camions ou qui même ralentit le camion. C'est quand même un petit pas en avant en termes de pouvoir atteindre la population et dans ce moment critique.
L'accès au nord de Gaza est crucial. Au moins 10 enfants sont morts dans ce secteur à cause du manque de nourriture et d'eau potable. Léo Kant s'est allé dans l'hôpital Al-Shifa à Gazaville cette semaine. Il est chef de mission pour MSF en Palestine.
C'est un siège dans le siège, la ville de Gaza. Donc il y a un siège sur la bande de Gaza. Et cette ville de Gaza, elle est encore assiégée une nouvelle fois avec l'armée israélienne qui empêche tous les biens essentiels de rentrer dans Gaza. Donc les enfants, les bébés qui naissent à Gaza aujourd'hui n'ont pas accès à la chose la plus basique qui soit, c'est-à-dire du lait en poudre pour pouvoir se nourrir.
Cette nouvelle route du Nord ne compense pas les multiples restrictions toujours imposées par l'armée israélienne. Cela faisait presque un mois que le Programme alimentaire mondial avait suspendu ses trajets vers le Nord pour des raisons de sécurité.
Et pendant ce temps, les choses se précisent autour de l'opération militaire voulue par Benjamin Netanyahou à Rafah. Le Premier ministre vient d'approuver les plans d'action de l'armée en vue de l'offensive contre le Hamas sur la ville collée à la frontière égyptienne. L'armée israélienne se dit prête pour l'évacuation de la population. Plus d'un million et demi de Palestiniens y sont réfugiés selon l'ONU. L'allié américain très sceptique demande à voir les plans. Il n'y aura pas de soutien américain sans prise en compte des civils palestiniens, menace la Maison Blanche.
Direction la Russie à présent où les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes.
Deuxième jour de vote. note d'une élection présidentielle jouée d'avance avec un Vladimir Poutine candidat à sa réélection, sans véritable opposant face à lui et sans contestation populaire non plus. Hier, seules 13 personnes ont été arrêtées pour des dégradations dans des bureaux de vote. Il faut dire que lors de l'invasion de l'Ukraine, plusieurs dizaines de milliers de Russes sont partis se réfugier à l'étranger, en Turquie notamment. Depuis hier, ils peuvent voter au consulat de Russie d'Istanbul. Mais vont-ils seulement s'y rendre? Comment vivent-ils cette présidentielle? Un reportage à Istanbul, signé Marie-Pierre Véraud.
Dans le café Grau, sur la rive asiatique du Bosphore, où aiment à se retrouver les Russes en exil, beaucoup se désintéressent du scrutin, comme Kirill, un designer.
Je ne vais pas voter. Je n'aime pas nos politiciens. J'ignore cette élection. Elle ne sera pas juste.
Pas juste, c'est aussi ce que pense Eva Rapoport. Elle soutient les exilés politiques russes et elle sera demain à midi devant le consulat russe, rue Istiklal, suivant la consigne des soutiens de Navalny.
Il y a une forte présence policière sur la rue Istiklal. Vous ne pouvez pas manifester pour quoi que ce soit. Quand Navalny a été assassiné, les gens n'ont pas pu venir déposer des fleurs au consulat russe, alors que c'était possible dans de nombreux autres pays. Honnêtement, je ne sais pas à quoi cela va ressembler ici dimanche, mais nous serons nombreux à y aller.
C'est en tout cas son souhait.
L'idée, c'est de mettre un grain de sable dans la machine, parce que si le régime peut montrer que Poutine est réélu avec succès et un énorme soutien populaire, alors il peut y avoir un durcissement dans l'avenir avec un nouvel ordre de mobilisation, plus de répression. S'il est moins confiant, ce sera peut-être moins dur, mais on s'attend à ce qu'il se passe de mauvaises choses après le mois de mars, et peut-être à ce qu'une nouvelle vague de gens fuient le pays.
Mais la Turquie, ajoute Eva, a terriblement durci les conditions de délivrance des permis de résident.
Marie-Pierre Véraud au Sénégal, sitôt libéré, sitôt en campagne pour la présidentielle. Première prise de parole d'Ousmane Sonko hier. Au lendemain de sa sortie de prison, l'opposant numéro 1 au président Macky Sall part en campagne à 9 jours du scrutin en soutien de son candidat à l'élection, Bassirou Diomaye Faye, qui est aussi son bras droit et qui vient lui aussi de sortir de prison. À Dakar, les explications de Théa Olivier.
C'est au milieu de militants galvanisés qu'Ousmane Sonko, principal rival du président Macky Sall, est arrivé sur les lieux de la conférence de presse où il prendra la parole pour la première fois depuis son arrestation en juillet dernier. Le leader politique, dont la candidature a été retoquée par le Conseil constitutionnel, veut motiver les électeurs à une semaine du scrutin présidentiel.
Il n'y aura pas de vengeance, il y aura de la justice. Parce que nous avons une élection à gagner. Que chaque heure compte. On a déjà perdu trop de temps.
À ses côtés, Bassirou Diomaye Faye, qui a été désigné comme le candidat de substitution du leader charismatique. L'homme politique de 44 ans a décliné son programme comme la souveraineté monétaire ou la réduction des pouvoirs du président de la République. Habituellement dans l'ombre d'Ousmane Sonko, il en a profité pour se présenter à ses électeurs alors qu'il vient de sortir de près d'un an de détention.
Je suis peut-être moins taquin que vous. C'est un peu plus autarcique, mais je suis quelqu'un de particulièrement raisonné, de particulièrement raisonnable. Voilà Bassirou Diomaye Faye en toute discrétion aux côtés de Ousmane Sonko.
Dans la soirée, les deux opposants ont commencé leur campagne express par une caravane électorale dans la capitale et sa banlieue.
Théa Olivier.
France Culture, il est 8h08, le journal Adrien Toffolet. Et en France, c'est un gros bouleversement dans le monde des médias.
L'armateur CMA-CGM du milliardaire Rodolphe Saadé va racheter Altice Média, on l'a appris hier. Altice Média qui comprend BFM TV et RMC appartient à Patrick Drahi. Pour Altice, l'opération a pour but de rembourser une partie de ses 60 milliards d'euros de dettes. Et pour Rodolphe Saadé, c'est la construction d'un nouvel empire médiatique, comme d'autres milliardaires comme Xavier Niel ou Vincent Bolloré, un relais d'influence considérable, Laura Dulieu.
L'été dernier, juste après le rachat du journal du dimanche par Vincent Bolloré, Rodolphe Saadé prend possession de la tribune et lance en octobre une édition dominicale pour concurrencer l'hebdomadaire où infusent désormais des idées d'extrême droite. Et avec ce rachat d'Altice Média, c'est bien la même logique qui se répète selon Arnaud Mercier, professeur spécialiste des médias à l'Université Paris 2.
C'est clairement l'anti-Bolloré. En France, la possession de grands groupes médias, elle est associée à des capitaines d'industrie qui n'ont rien à voir avec des professionnels des médias dans un premier temps, mais qui ont tout à voir avec des relations politiques de capitaines d'industrie qui s'achètent un relais d'influence auprès des gouvernements et de l'exécutif.
Les très lourdes dettes d'Altis auraient en effet pu mettre en danger les médias du groupe et donc le relais d'influence qu'il représente, d'autant plus en vue de la présidentielle de 2027, selon l'historien des médias Alexis Lévrier.
Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, mais il y aura des candidats qui vont s'inscrire dans la filiation de son double quinquennat et des propriétaires de médias comme Rodolphe Saadé, mais aussi comme Daniel Kretinsky qui a exactement les mêmes ambitions, sont dans une logique d'accompagnement de ce pouvoir. Daniel Kretinsky a fait changer une de Marianne dans l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle 2022 pour que cette une soit davantage en soutien d'Emmanuel Macron. Donc tout cela se fait sous nos yeux autour de quelques oligarques entre lesquels va reposer la liberté de l'information.
Et justement, une proposition de loi transpartisane avait été déposée après l'arrivée à la tête du JDD de Geoffroy Lejeune, journaliste marqué à l'extrême droite. Le texte propose de donner aux journalistes un droit d'agrément sur la nomination du directeur de rédaction par l'actionnaire. Il doit être débattu le 4 avril.
Les Français ont-ils payé trop cher leur électricité ces deux dernières années? Leur réponse est certainement oui, compte tenu des multiples crises qui se voient sur la facture. La Cour des comptes s'est en tout cas penchée sur la question et dans un rapport publié hier, elle confirme que les dispositifs d'aide aux consommateurs, comme le bouclier tarifaire, ont certes coûté cher à l'État, mais révèle aussi que l'État n'est pas parvenu à récupérer les marges des fournisseurs d'électricité pour financer ses propres dépenses budgétaires. La Cour estime donc que le consommateur et le contribuable ont été lésés, Valentin Gris.
Une facture trop lourde de 30 milliards d'euros sur les années 2022 et 2023, voilà ce qu'ont subi les Français du fait des errements de la politique énergétique nationale. Les ménages français ont bien payé un peu moins cher qu'ailleurs grâce au bouclier tarifaire, mais au prix d'un sacrifice des finances publiques. Les prix payés se sont en effet trop éloignés des coûts réels de production. Pour rappel, l'année 2022 voit EDF subir la dégradation de son parc nucléaire dont la moitié est à l'arrêt. Ses coûts de production augmentent en parallèle des coûts d'approvisionnement sur les marchés mondiaux qui explosent. Mais ils vont vite redescendre en 2023, desserrant les taux sur EDF et sur les fournisseurs indépendants. La tactique de l'État reste alors la même, protéger le consommateur avec le bouclier tarifaire d'une part et tenter de capter les surprofits des fournisseurs de l'autre, avec notamment la hausse des redevances sur les barrages et surtout la CRI, contribution sur les rentes infra marginale, mais ces deux dispositifs sont mal conçus et ne feront remonter que 6 milliards d'euros vers l'État en deux ans, alors que les surprofits atteignent 37 milliards sur la même période. Le bouclier tarifaire compense ainsi des hausses indues, plus qu'il ne fait réellement baisser les factures, explique la Cour des comptes. Elle avertit déjà, ces effets d'aubaine se poursuivront cette année sans évolution des règles ou des contrôles. La double stratégie de l'État de laisser les prix s'envoler pour mieux taxer les surprofits ensuite, et qui s'est avérée inefficace jusqu'ici, est aussi au cœur du futur système de prix négocié avec EDF pour l'après-2025.
Nous sommes à moins de 3 mois des élections européennes et après le RN il y a 15 jours et la majorité le week-end dernier, c'est au tour des Insoumis de se lancer officiellement dans la campagne. Meeting à Villepinte en Seine-Saint-Denis tout à l'heure. La liste menée par l'eurodéputé Manon Aubry vise la 3e place derrière le RN et Renaissance. Leïla Chaïbi, députée européenne et candidate sur la liste LFI, sera l'invitée du journal de 12h30. Après Villeurbanne en 2022, pays de Montbéliard agglomération, devient officiellement aujourd'hui capitale française de la culture 2024. Un label destiné tous les deux ans à des communes de 20 000 à 200 000 habitants, piloté et financé par le ministère de la Culture avec le soutien de la Caisse des dépôts et mis en œuvre par la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Plus de 300 manifestations sont programmées. Les habitants des 73 communes de l'agglomération sont invités à participer aux festivités et le Premier ministre Gabriel Attal sera présent dans le Doubs pour lancer l'événement tout à l'heure. Un événement qui apporte beaucoup au territoire. Cédric Van Stivendel, maire PS socialiste de Villeurbanne, revient sur la première édition de ce label et fait le bilan en particulier de ce qui est resté au-delà de la programmation et du public réuni en 2022.
Finalement, ça a été un formidable accélérateur de projets. Et si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas pu mettre en place, par exemple, dans chacun des groupes scolaires, des lieux dédiés à la culture avec des médiatrices et des médiateurs culturels. Aujourd'hui, on a 22 lieux dans 25 écoles, donc il nous reste 3 écoles à faire. On a pu aussi développer des balades urbaines en autonomie dans la ville pour découvrir le patrimoine, pour découvrir des mémoires, qu'elles soient culturelles ou historiques. Et puis enfin, on avait des jeunes qui avaient monté un festival de fanfare pendant l'année Capitale Française de la Culture, eh ben, on va attaquer la troisième édition avec un succès qui se dément pas. Donc, c'est ce que je retiens, moi, à la fois de la fierté, de la joie, une dynamique très forte sur les acteurs culturels et puis un accélérateur important de projets.
Et aujourd'hui, on vous en parle encore ?
Ah ben aujourd'hui, on en parle encore, oui. Et si j'étais honnête, on en parle pour deux choses. À la fois que c'était super, que c'était fantastique et que c'était génial, et à la fois qu'on a dépensé beaucoup d'argent. On a dépensé pour cette année-là 13 millions d'euros pour Capitale Française de la Culture. Généralement, la ville de Villeurbanne, c'est un budget culture aux alentours de 25 millions d'euros. Et donc, c'est un supplément de dépenses pour nous de 8 millions d'euros par rapport à nos politiques publiques en matière de culture sur l'année. Mais moi, ça ne me choque pas de continuer à avoir un discours là-dessus et de dire que la culture, c'est une politique publique d'investissement et qu'il faut aussi mettre de l'argent sur la culture. Donc, je suis parfois attaqué, mais ça fait partie de la vie politique d'être attaqué là-dessus. Et moi, je ne tourne pas les yeux au moment d'avoir ce débat sur combien d'argent on met sur la culture.
Cédric Van Stivendel, joint par Éric Chavroux. Le temps de ce samedi, des nuages sur une large partie du pays, du soleil ce matin au sud-est et des éclaircies le long de la frontière nord-nord-est. Les températures ce matin entre 9 et 11 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 17 en Méditerranée.